Les grandes voix d'Europe 1. Sébastien Guyot.
Je vous ai promis le débat sur Emmanuel Macron, le non mea culpa, etc. Mais les grandes voix sont intarissables. Elles continuent à parler pendant la pause publicitaire de Xavier Bertrand. Vous vouliez ajouter un mot, Catherine Ney, notamment sur le fait qu'il peut-être est-ce un rempart plus intéressant qu'Emmanuel Macron pour certains électeurs, ce Xavier Bertrand.
Mais oui, parce qu'il est craint à l'Élysée. Et moi, j'ai vu comme un signe le fait que le président ait choisi comme Premier ministre Jean Castex, qui était le directeur de cabinet de Xavier Bertrand à la Santé. Ils ont toujours gardé des liens, ils s'entendaient bien, ils se respectaient. Et puis voilà, et là d'ailleurs, comme le disait Michel tout à l'heure, vous avez remarqué que jamais Xavier Bertrand n'attaque le Premier ministre. Et pour cause, c'est son ami, vous voyez. Et ensemble, ils avaient pris une décision qui était très importante. Et moi, c'est ce que je retiens, c'est qu'ils avaient interdit de fumer dans les restaurants. Donc, rien que pour ça, je les bénis.
Il faut rappeler quand même que Xavier Bertrand ne le cache pas. Il a été appelé par Emmanuel Macron pour être son Premier ministre et il a refusé au début, en 2017. Il a été, on se l'est dit comme ça, mais maintenant, il le dit lui-même. Il a donc été... C'est les rapports entre les gens, entre Paris, là, les territoires, sont plus compliqués qu'on le pense.
Ce qui me frappe, Michel, au cours de l'émission, là, mon poids moyen du départ...
Il a pris 3 kilos de l'épaisseur
et de devenir un poids lourd. Mais c'est peut-être vrai. Et c'est peut-être potentiellement ce qui peut se passer. Hein. On ne l'exclut pas.
Dans le désert,
il a une double dimension intéressante quand on le connaît un peu. J'ai lu dans un certain nombre de commentaires, dans les journaux, qu'on lui niait sa dimension sociale qui est réelle. Pas seulement sur l'interdiction de fumer dans les restaurants bien sûr. Mais il n'empêche que c'est vrai qu'il est à l'origine de cette mesure. Mais aussi... C'est un candidat dangereux pour le socle de droite que s'est bâti petit à petit le président de la République. Et socle de droite qui est quand même attentif aussi aux inégalités, notamment sociales, qui sont importantes, qui se sont élargies avec la pandémie. Et ça, c'est vrai qu'il ne parle pas de la pandémie dans son programme, qu'il n'y a pas fait allusion, mais Dieu sait si... Il faudrait, et nous avons échangé sur ce plan-là avec lui, en disant que, notamment dans le domaine de la recherche, l'échec français est considérable. Et que sur ce plan-là, lui qui a été ministre de la Santé, devrait quand même intégrer dans son programme cette dimension-là.
Bref, il va falloir se lever de bonheur pour les autres candidats s'ils veulent effectivement rattraper l'avance qu'il est en train de prendre.
Oui, mais ce que je mesure mal encore, parce que c'est l'impact qu'un discours, qu'il a en des discours. Est-ce qu'il est capable de séduire, d'avoir cette force?
Ça va beaucoup compter.
Que moi, en meeting, jusqu'ici, c'était, ça me laissait plutôt un encéphalogramme plat. Mais est-ce qu'il va,
Il faut tenir.
C'est un banc d'essai intéressant pendant une heure sur Europe et sur CNews.
C'est la conversation, c'est pas le meeting, c'est pas la force, c'est pas le. Vous voyez.
Mais il a dit qu'il parlerait beaucoup tous les jours, quasiment à partir du mois d'avril.
Il
pas tous les jours, mais entre
il
les cas,
entretienne sans user.
Et ça, c'est quand même une difficulté, c'est que pendant 13 mois, va falloir entretenir sa candidature. Et sur la distance, il ne faut pas oublier que des gens comme François Mitterrand ou Jacques Chirac sont partis au maximum 7 mois avant l'élection présidentielle.
Vous rappelez que Fillon avait perdu un mois après sa désignation. Il avait perdu un mois en disant qu'il faudrait que je tienne à partir de janvier-février. Donc ça, il faut tenir. Alors les gens qui disent « Ah, il faut qu'il fasse rêver ». Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Personne ne rêve aujourd'hui. On rêve simplement de s'en sortir.
C'est un grand rêve de s'en sortir avec quelqu'un qui vous le propose. C'est ça le rêve ultime.
Il faut qu'il fasse sérieux.
C'est ça.
Il va falloir tenir malgré tout, comme vous le disiez, parce que vous évoquiez Mitterrand, Chirac, Sarkozy aussi, c'était, je crois, déclaré au mois de novembre. Alors, est-ce qu'il est parti trop tôt? Ce sera une question à suivre.
Oui, et il n'a pas un parti, c'est vrai qu'il y a un petit handicap, on l'a un peu effleuré, mais il a un petit handicap quand même. C'est le fait d'avoir pris du champ par rapport aux Républicains, qui ont quand même une grosse surface en termes d'élus un peu partout en France,
notamment
etc.
sur le plan municipal.
Et sur le plan municipal, bien sûr, mais aussi sur le plan législatif, il y a quand même 100 et quelques députés. Enfin bon. Il n'a pas, pour l'instant, il n'a pas ce renfort, et ces gens qui peuvent... Alors, il peut les agréger peu à peu, mais pour l'instant, il ne les a pas encore. Hein.
Alors, on arrête cette fois avec Xavier Bertrand. On remarque une dernière petite pause. Et après, on parle, comme promis, d'Emmanuel Macron, de sa stratégie anti-Covid et son refus de faire un mea culpa.
Les grandes voix d'Europe 1.
Les grandes voix, Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. Avec le Covid maintenant, près de 42 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures, 4 766 patients en réanimation, plus de 3 200 classes fermées contre 2 000 il y a une semaine. Ça flambe, l'épidémie de Covid de plus en plus incontrôlable. Et pourtant, jeudi soir, en conférence de presse, Emmanuel Macron.
Est-ce que le 29 janvier, nous aurions dû confiner le pays ? Non. Nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier. Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec.
Aucun constat d'échec, Gérard Carrérou.
Oui, là, je dois dire que mon reproche principal, je pense que je ne suis pas le seul, c'est qu'Emmanuel Macron est dans l'autosatisfaction immodérée. On sait bien que les chefs d'État, et on a cité tout à l'heure Mitterrand pour autre chose, ils n'ont pas l'habitude, les chefs d'État, en tout cas sous la Ve République, de faire des mea culpa. Mais on peut quand même, entre faire des mea culpa et dire on a tout bon, on a tout fait, tout bien, parce que c'est exactement comme ça qu'on pouvait retenir ce qu'il a dit il y a deux jours, tout fait, tout bien, je pense qu'un certain nombre de Français se disent mais enfin quand même, il y a quand même eu un cortège de mauvaises décisions. Et je vais prendre une seule. Le professeur de Fressy, président du Conseil scientifique, il a été gaussé, on s'est foutu de lui, mais alors largement, sur un certain nombre de médias, pour avoir été un peu le prophète de malheur. Et le président de la République a dit, mais il m'avait induit en erreur, en gros. Or, quand on a vu, j'ai vu hier sur une chaîne de télé, la déclaration de Fressy du 24 janvier et la déclaration de Macron, on s'aperçoit que ce qu'avait dit le professeur de Fressy, c'est-à-dire si le variant anglais l'emporte peu à peu, etc., et si on ne change pas en faisant des pas de plus une nouvelle stratégie, etc., la situation sera extrêmement difficile. Et il avait dit quand ?
À la mi-mars.
À la mi-mars. Donc il avait raison, et on s'est moqué de lui, on a dit non, ça peut attendre. Et
sauf
la stratégie.
Que Gérard Carrérou, oui. Emmanuel Macron lui répond, oui. Il y aurait 30 000 nouveaux cas quotidiens à la mi-mars, et aujourd'hui je n'ai pas confiné le 29 janvier.
C'est l'autosatisfaction quand même que je dénonce.
Et il y a 30 000 cas, aujourd'hui 40
000. Qu'est-ce qu'on reproche au président de la République ? De ne pas avoir fait, de ne pas avoir demandé pardon, ce qu'a fait Angela Merkel. C'est le contraste qui fait qu'on le critique.
Mais pour des raisons diamétralement opposées.
Il n'a pas fait ce que Mme Merkel a fait et qu'elle a dû retirer. Donc sur ce point particulier, c'est lui qui a raison. Sur ce plan-là, évidemment.
Attendez. On laisse conclure, Charles, et vous lui répondez.
Il n'a pas confiné. Bon. Or, Mme Merkel devait fermer les commerces, tous les commerces.
Mais non, mais ils sont
les
fermés. Églises, bon, les... non, mais c'est pas devait... ça. C'est... Son pardon, c'est pas ça.
Et les messes de Pâques.
Mais non.
Et il fallait pas célébrer les messes de Pâques.
C'était le jour.
Et elle demande
jour.
Pardon parce que les ministres résidents des Länder, d'ailleurs, avaient de toute façon eux-mêmes approuvé la décision de Mme Merkel. Et eux aussi ont dû ravaler cette approbation. Et lui simplement, il n'a pas confiné. C'est pour ça qu'il dit, de toute façon, c'est l'ultime
Michel
recours.
Cotta
pour
non, c'est une fausse symétrie, je suis désolé.
Non, c'est pas,
une vraie
c'est
fausse
pas du...
symétrie.
Oui, absolument
entre,
pas.
Entre ce qui n'est pas du tout, c'est à l'identique.
C'est tout à fait. Non, mais non, pas du tout.
Mais si, c'est à l'identique. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous.
Non, en janvier, s'est posé la question, fallait-il confiner ou pas ? Et on se souvient quand le JDD annonçait ses proches. Bon, il y a eu de telles réactions de l'opposition, de tout le monde, vous n'allez pas recommencer le confinement, que Emmanuel Macron, il a fait une analyse entre bénéfices sanitaires, bénéfices économiques, il a dit, mais on ne reconfine pas. Il a envoyé balader le professeur Del Fressy, qu'on n'a plus entendu. Bon. Aujourd'hui, il dit, compte tenu de ce qui s'est passé pendant ces deux mois, où l'activité économique a continué, tout ça, je ne le regrette pas, je n'ai aucun remords. Il n'aurait pas dû ajouter aucun constat d'échec, parce que c'est quand même un constat d'échec, puisque la pandémie repart. Voilà. Donc, ça, il a eu tort, vous voyez.
Oui, là-dessus.
Mais,
là-dessus.
Il a eu tort là-dessus. Oui. Bon. Mais Mme Merkel, elle demande pardon, mais sur une chose minuscule. Figurez-vous que comme elle n'est pas Jupiter et qu'elle ne peut rien prendre de décision sans en référer aux Länder, ils se sont réunis pendant 15 heures, jusqu'à 3 heures du matin, pour décider quoi ? Que week-end pascal des Allemands qui est confiné, mais un confinement allemand, c'est-à-dire on sort comme on veut, jusqu'à 3 heures du matin, la nuit, le jour, qu'importe. Il n'y a pas d'attestation, il n'y a pas de masque. On est dehors sans masque. Bon. Et elle dit le jeudi, ça serait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Eh bien, elle, le jeudi, ça a posé tellement de problèmes avec les industriels qui disaient mais est-ce qu'il faut chômer, tout ça, que n'ayant pas de réponse, elle a dit ben, on supprime le jeudi. Et elle a demandé pardon pour le jeudi.
Michel
Donc,
Cotin.
C'est rien du
non,
tout.
Non, mais je veux dire, quand même, c'est vrai que ce sont deux démarches. Elle a été, elle s'est excusée parce qu'elle voulait trop confiner. Et
un
au
jour.
Fond, un jour, d'accord. Mais Emmanuel Macron, lui, s'est excusé. Enfin, aurait-tu s'excuser ? Peut-être qu'il aura à s'excuser d'avoir pas assez confiné.
Les deux démarches sont. Tout le monde l'applaudit quand
justement,
il a pas confiné. Alors,
tout le monde l'applaudit.
Et ce sont les mêmes
exactement.
Aujourd'hui qui l'accusent.
C'est vrai,
voilà.
Et c'est vrai voilà. Quand
c'est
même que
dans la stratégie.
Tout le monde
c'est
l'a
non,
pas
c'est vrai que dans
tout
la stratégie.
L'a pas applaudi. Une fraction
laisse,
forte.
Laisse finir Michel
Gérard Carrère.
Pour la stratégie, c'est vrai qu'il a misé sur la montée des vaccins très vite et une pandémie qui pouvait se juguler, se réparer, se regarder et être maîtrisable. Bon, il a pas eu, franchement, il a vraiment pas eu de chance. Avec les vaccins, alors ça, on s'en mettra en cause.
Chance,
on mettra
on
en cause sans doute
c'est
la Commission européenne.
Non, mais il a fait son mea culpa à demi-mot. Sur le fonctionnement de l'Europe par rapport justement au
voilà,
vaccin.
Justement,
c'est,
et
c'est
jour,
là-dessus
on se posera,
qu'il a dévié le tir.
Il a fait son mea culpa sur la poitrine de l'Europe.
C'est voilà.
D'ailleurs, et il a même rendu hommage, sans le dire évidemment, à Trump, d'avoir effectivement engagé très tôt les moyens financiers.
D'avoir eu cette folie.
C'est pas ça que je voudrais dire. Je voudrais juste dire un mot pour la situation à venir. Parce que là, on vient d'analyser la situation qui vient de se passer. Moi, je vous signale quand même que, vu les chiffres qu'on a encore entendu ce matin sur Europe 1, les chiffres, à la fois du nombre de gens contaminés chaque jour, on n'est plus à 5 000, ni à 20 000, on est autour de 35 000.
Alors, 42 000 les 24 dernières heures, 45 000 la veille.
Exactement. Et le chiffre des réanimations, on a passé 4 800.
On est à moins de 4 800, 4766.
On est autour de 5, on va être
on est moins
semaine,
que le premier
milieu
pic,
de semaine.
Hein.
Oui, mais ça veut dire aussi que s'il y a 42 000 cas positifs tous les jours, et seulement 4 000 sur tout le territoire. Et tout ça veut dire que la plupart des gens sont positifs sans avoir de symptômes. Ou rien.
Oui, enfin, il y a quand même 300 morts par jour. Il y a quand même 300 morts par jour. Et on est pas loin de 100 000 morts. La semaine prochaine, enfin, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans 10 jours, on aura 100 000 morts en France. Donc, je veux dire par là que les mesures d'autosatisfaction ne me semble pas de mise aujourd'hui.
On est d'accord avec toi.
De toute façon, c'est vrai qu'il a été le maître de la stratégie et par conséquent, il en sera le premier responsable. Si ça marche, on dira formidable, ça a marché. Si ça ne marche pas, il sera vraiment mis en cause.
Le débat des grandes voix se poursuit. Dernière pause et on se retrouve avec Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Catherine Ney et Michel Cotta. À tout de suite.
10h, 11h. Les grandes voix d'Europe 1.